vous vous apprêtez à écouter « C'est quoi le rapport ?». Tout au long de cette aventure, on vous invite à nous transmettre vos remarques, vos questions, vos désaccords, afin qu'on puisse les prendre en compte pour une discussion au 8e épisode qui fermera ce premier cycle de podcast. On vous souhaite une bonne écoute.
Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société et le mode dont ces lois se réalisent. Après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne nous posons pas en apôtre d'une nouvelle religion. Accueillons, encourageons toutes les protestations. Flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes. Ne regardons jamais une question comme épuisée.
Second souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.
Bienvenue à toutes et tous et bienvenue sur ce premier podcast de Second Souffle, C'est quoi le rapport ? Qui est un podcast expérimental qui va questionner nos rapports éducatifs, les questions éducatives, les questions de posture. On va utiliser des concepts, des outils, des idées, des mots qui nous intéressent, qui nous animent, sur lesquels en tout cas on porte une grande attention et qui déterminent pas mal nos postures justement de militants, nos postures d'acteurs ou d'actrices éducatives, qui déterminent pas mal nos rapports dans lesquels on milite, mais aussi simplement dans lesquels on existe, quoi. Second Souffle, c'est un espace dans lequel on essaye de mettre des gens en lien, en rapport. On essaye de créer du lien entre des personnes qui ont des stratégies différentes de lutte, d'action, d'agir. Tout simplement, on essaye de créer ces lieux-là, que ce qui soit numérique ou qui soit dans la vraie vie, en fait, par des regroupements, par exemple. On essaye pas mal de produire des choses, de produire des brochures, de produire ce podcast, par exemple. En tout cas, on essaye de lier aussi notre théorie et notre pratique et de partager au maximum aux personnes qui s'intéressent à ces questions-là toutes nos préoccupations et toutes nos conclusions, quoi, d'une certaine manière. On remercie la radio associative Studio Zef, qui est basée à Blois et qui nous prête son matériel. On remercie aussi l'association éducative de la Butte, qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer au frais, dans une grange, en pleine campagne. C'est hyper agréable, donc on les remercie beaucoup. Moi, c'est Thomas. Je suis un homme, plutôt grand, pas trop non plus, blanc, cisgenre, qui milite dans les espaces d'éducation populaire depuis une dizaine d'années. Je me situerai plus précisément tout à l'heure. Et je vais passer la parole à Gaston, qui est en face de moi. Salut Gaston.
Salut Thomas, moi c'est Gaston. Donc moi je suis un homme, grand, blanc, et qui s'intéresse beaucoup aux sciences humaines et sociales, et qui aujourd'hui est particulièrement militant, anarchiste et libertaire. J'arrive dans cette conversation-là sur les questions de pédagogie et sur les questions de posture parce que je suis formateur en éducation populaire, donc beaucoup sur des questions de vivre ensemble, d'organisation collective, de communication, de résolution de conflits, de médiation, enfin tout plein de choses dont j'aurai l'occasion de parler pendant les podcasts. Et du coup, il y a trois autres personnes autour de cette table. Je vais passer la parole à Augustin. Bonjour Augustin.
Bonjour. Bonjour Gaston. Je m'appelle Augustin. Moi, je fais partie de Studio Zef. Enfin, j'ai fait mon service civique là-bas et tout, et ce qui fait que je gère la technique aussi. Donc, je parle peut-être un peu moins que les autres. Mais sinon, je suis animateur en colo et je suis militant. Pas très peu au CMEA, mais plus à Second Souffle aussi.
Les CMA, qui sont une association d'éducation populaire et de formation, et autour de cette table, on est plusieurs par ailleurs à s'investir dans l'animation volontaire. On parlera peut-être de BAFA, de BFD de temps en temps par exemple. C'est des brevets d'animation volontaire qui permettent d'investir les accueils collectifs de mineurs en France.
Merci Thomas de cette précision. Et ce qui fait que moi, je vais aussi dire en face de moi, puisque c'est à l'autre bout de la table, j'ai Raphaël. Salut.
Salut Augustin, moi c'est Raphaël ou Raph, je suis un homme blanc, plutôt grand. Je suis aussi du coup un animateur, formateur en éducation populaire. Je fais des formations BAFA, BFD dont vient de parler Thomas. Et du coup c'est par cette entrée que je m'intéresse à la posture. Depuis que je suis animateur, je connais ça, et en fait ça fait plusieurs années que je me pose ces questions, et puis comme ça paraît un terrain inépuisable, pourquoi pas en faire un podcast. Et du coup je vais passer la parole à Roman.
Salut Roman.
Bonjour.
Du coup, je m'appelle Romane et je suis une fille. Ma mère est née en Nouvelle-Calédonie et ma grand-mère est vietnamienne née en Nouvelle-Calédonie et mon père est français. Et moi, je suis là parce que, avant, j'étais dans une école de beaux-arts et j'ai commencé à faire des colos pendant les vacances d'été. Et après les études, j'ai continué à faire des colos et plus beaucoup de dessins. Donc ça, c'est par le biais d'être animatrice en colonie de vacances que ça m'intéresse les questions de posture.
Du coup, tout le monde s'est présenté. On va donc vous parler aujourd'hui des questions de posture. Questions de posture dont on s'est rendu compte en préparant ce podcast que, en fait, c'était le sujet sur lequel on revenait, à partir duquel on articulait tous les questionnements, toutes les problématiques et tous les moyens qu'on pouvait mettre en place pour mener à bien les actions qu'on essayait de mener. On va essayer là tout de suite de faire peut-être un petit tour pour vous expliquer. C'est un mot qui est balancé assez aisément dans certains milieux, particulièrement les milieux d'éducation, mais qui, en fait, d'une part, est pensé plus ou moins par tout le monde, mais qui aussi est souvent d'une complexité assez impressionnante. Mais du coup, l'idée pour nous, ça va être de le rendre le plus abordable possible en le découpant le plus possible, parce qu'en fait, il est composé de choses qui sont vachement simples. Et du coup, je vais prendre une minute, mais on va tous essayer de faire ça autour de la table, pour présenter comment est-ce qu'on a rencontré la posture, comment la porte s'est ouverte sur ces questionnements-là, parce que c'est des questionnements qui... C'est des questionnements qui, en tout cas personnellement, une fois que j'ai commencé à me les poser, ont jamais cessé de m'occuper l'esprit. Et qui aujourd'hui sont en fait le cœur de mon job, au-delà de exactement ce que je vais mettre en place dans mes formations ou dans les actions que je mène, de comment est-ce que je me tiens, qui je suis, comment est-ce que je me présente, effectivement, aux personnes avec lesquelles je suis en action. Moi, la posture, c'est un concept, une idée que j'ai toujours plus ou moins ressentie et qui existe en fait, a toujours plus ou moins existé dans le langage, de la réputation qu'on peut avoir, de comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on apparaît aux autres par nos manières de parler, nos manières de se vêtir, et où du coup les questions d'apparence, de personnage, de je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, si, il y a l'expression posture professionnelle qui existe pas mal, et un truc qui existe dans le langage commun, mais où en discuter de manière honnête en tant que c'est un personnage, c'est bardé d'idées préconçues, et où tenir ces conversations-là pour essayer d'aborder les personnages qu'on porte, les personnages dont on s'inspire, les personnages à partir desquels les personnes nous regardent, est une discussion que j'ai eu énormément de mal à avoir pendant longtemps, jusqu'à ce que, en cours de mes études, je tombe sur un manuel de psychologie sociale qui s'intéresse à justement toutes ces questions d'apparence, d'idées préconçues qu'on peut avoir, comment se construisent les premières impressions sur une personne en fonction de sa manière de s'habiller, de l'apparence de son visage, de sa manière de parler, ou de son bagage d'expérience antécédente. Et où du coup, à ce moment-là, j'avais pas encore le mot posture, j'ai juste découvert que des sciences s'intéressaient en tant que telles à la manière dont ça fonctionnait. Et à la suite de ça, toujours pendant mes études, j'ai commencé à m'intéresser à des questions de pédagogie, et je me suis intéressé à la question de l'éducation populaire, qui était présente dans les réseaux militants dans lesquels je pouvais évoluer à ce moment-là, et particulièrement dans mon lieu de vie, où on a quelqu'un de... un éduc-pop, comme on dit, qui est venu chez nous pour essayer de nous accompagner dans une action. Et à partir de ce moment-là, le mot posture est arrivé dans un environnement sans forcément que je comprenne ce que ça pouvait être. Et c'est à ce moment-là que, après quelques mois pour essayer de comprendre entre mon langage et le langage de l'asso dans laquelle je faisais de l'éduc-pop, j'ai pu accéder à l'attention que c'était que de qu'est-ce que c'est que de me présenter, de quel code est-ce que je m'inspire, à quel code est-ce que je renvoie, et toute la complexité qu'on va pouvoir commencer à aborder. Personnellement, la question de la posture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé sur mon apparence physique en tant que telle. Je suis très grand, et c'est quelque chose qui a été très formateur de mon identité, parce qu'il y avait des attentes, parfois équivoques, parfois ambivalentes, mais souvent très fortes, par rapport à ma taille. Et je me pose la question de comment est-ce que ma taille construit qui je suis, la manière dont j'existe, depuis mes... Je devais avoir 6 ou 7 ans quand ma mère a utilisé pour la première fois l'expression « le syndrome de la tête qui dépasse ». Donc ça, c'est mon histoire. Je propose que Thomas, je te vois qu'il lève la main, tu prennes la suite par rapport à ça.
Je vais essayer d'être bref. Le mot posture est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je l'ai croisé régulièrement depuis que je m'investis dans des espaces de colonies de vacances et dans des espaces militants qui se disent être en lutte contre quelque chose. J'entendais un peu Gaston parler de rôle, de fonction, etc. Est-ce que se dire être dans une posture éducative, est-ce que se dire être dans une posture de pédagogue, dans une posture de militant, c'est pas se figer dans un rôle à ce moment-là? Et en quoi est-ce qu'on peut adopter peut-être une posture plus globale qui nous permettrait de réfléchir nos rapports avec les autres? J'ai envie, moi, personnellement, d'adopter une posture qui me permette à être dans un rapport avec une autre personne en tant qu'apprenant et que sachant. Et du coup, que je suis prêt, quand je rencontre quelqu'un, à me dire « cette personne a des idées, elle peut m'apprendre des choses, j'ai envie de le voir positivement, j'ai envie de voir qu'elle peut augmenter ma puissance à agir sur le monde ». Et à l'inverse, j'ai envie de pouvoir transmettre les choses qui me semblent être vraies, en fait, d'une certaine manière, c'est sûr que c'est mes croyances, de les confronter à cette personne-là, mais plutôt dans une confrontation qui crée une justesse par la collectivisation des croyances. J'ai le sentiment que les personnes se définissant comme pédagogues sont souvent plus dans un rapport de sachant que d'apprenant. Et ça me semble être essentiel que d'être dans un rapport double et d'affiner, en tout cas, ce rapport aux autres.
Moi, je l'ai rencontré quand j'ai passé mon BAFA. Donc, j'avais, je sais pas, je devais avoir 22 ans, je crois. J'avais 22 ans, et puis ça faisait déjà quelques années que je faisais de l'animation avec les enfants. J'ai rencontré la posture. C'est mes formateurs et formatrices qui m'en ont parlé. Et en fait, quand on m'a demandé. De définir des mots tels que autorité, tels que statut, influence, tout ça, je me suis rendu compte que j'étais incapable de les définir. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que je sais...
C'est quoi tes intentions, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me les poser. Et puis, quelques années après, je suis devenu formateur BAFA à mon tour. Et... elles se sont encore posées autrement parce que dans le rapport éducatif que j'avais avec les enfants, c'était je suis un adulte, j'ai le statut d'éducateur, d'animateur, et du coup, ça m'oblige un peu à réfléchir quelle posture je dois adopter. Et en fait, c'est un travail qui a été continué après pour moi par la suite quand je suis devenu formateur parce que j'étais face à des adultes ou des jeunes adultes, mais... ça ne voulait pas dire non plus qu'il n'y avait pas de rapport de domination à ce moment-là. Et encore une fois, c'est poser la question de la posture parce que c'est encore un autre contexte, un autre rapport, mais il y a encore cette question-là. Et puis après, je me suis encore plus investi dans des espaces militants où là, il y a encore eu la question de la posture parce que j'essayais de convaincre des gens. Je retournais dans ma famille, j'essayais de convaincre mes parents, mes frères. Et... encore une fois, une question de posture. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'elle serait pas partout? Et là, ça a été le début du vertige. Je tombe dans le tourbillon, comme dans Vertigo.
Le tourbillon de la posture.
Ouais, le tourbillon de la posture. Et puis, heureusement, en fait, en m'entourant de personnes qui se posaient les mêmes questions, au final, en fait, on se rend compte qu'on peut avancer sur la question, qu'on peut trouver une éthique là-dedans, qu'on peut trouver des bouts de réponse qui font que... en fait, il y a des choses à réfléchir et des choses à penser, et puis il y a des manières de se satisfaire de sa posture, quoi.
Qu'est-ce que tu entends par éthique, rapidement ? Parce que tu l'as dit.
Éthique. Hier, en fait, on l'a opposé. En fait, on a dit mais la posture, c'est intéressant pour être efficace. Et en fait, dans la discussion, on disait c'est important pour être efficace d'avoir une bonne posture, de bien transmettre le message. Et en fait, moi j'ai dit mais il y a les questions d'éthique. En fait, c'est pas parce que quelque chose est efficace qu'on a envie de le faire. Et en fait, les questions d'éthique, pour moi, c'est tout ce qui me paraît juste, souhaitable, mais qui est vis-à-vis de ma compréhension du monde actuel, des rapports de domination qui peuvent exister, des puissances d'agir de chacun, comment elles peuvent être partagées, augmentées mutuellement. Et du coup, pour moi, l'éthique, ce serait la prise en compte de tout ça avant au moment où on agit, quoi, comment on fait pour agir adéquatement, agir de manière juste vis-à-vis de son éthique qui est propre à chacun, quoi.
Ouais, et en te détachant du coup des injonctions morales que tu aurais pu avoir tout au long de ta vie, et en les triant d'une certaine manière, c'est un peu ça.
C'est ça.
Ok.
Moi, j'ai pas rencontré le mot posture très vite, je crois. Je crois que j'ai beaucoup plus eu affaire au statut et à l'autorité que, enfin, plus spécifiquement. Et bah, comme je suis petite, je suis une fille et que en colo, dans les colos où je travaille, c'est des enfants de Montreuil, plutôt de banlieue, où il y a quand même beaucoup de patriarcat. Bah, je me suis beaucoup au début posé la question de comment je peux imposer un statut, comment je peux compenser, enfin comment je peux, je sais pas, hérisser le poil comme les chats le feraient pour se grossir, quoi. Par la suite, je me suis plus posé la question de comment on peut faire avec plus de possibilités, pas forcément les miennes, faire les choses à plusieurs, penser les choses à plusieurs et pas que moi toute seule qui le déverserait à d'autres, quoi.
Ça a été un truc chouette pour moi, ce moment-là.
Passer de la posture justement de « je veux transmettre », je veux absolument montrer que j'ai raison et... voire même être dans une posture d'accueillir le fait que des personnes puissent mettre en doute ma pensée pour pouvoir l'améliorer, mais dans une perspective de performance.
Oui.
Et où du coup, ce moment de réussir à dire, qui est super récent, hein, c'est, je ne saurais pas le dater exactement, mais de réussir à dire, mon objectif c'est, peut-être que j'ai des opinions, des croyances, des représentations, des perceptions qui sont vraies, mais je ne peux jamais en être sûr. La seule chose que je peux vérifier, c'est est-ce qu'elles me rendent libre, est-ce qu'elles me sont utiles, et d'aller les proposer aux autres pour... peut-être leur proposer des choses qui les rendront peut-être elles-mêmes plus libres et qui leur sont utiles, mais surtout et aussi les confronter à leur expérience pour vérifier que c'est des choses qui sont justement, est-ce que je peux pas les rendre plus vraies, réussir à me poser cette question-là au moment où je propose quelque chose à quelqu'un, est-ce que je peux pas le rendre plus vrai, de réussir à avoir cette posture de partage, de co-construction où j'ai pas besoin de me soumettre à l'opinion des autres et j'ai pas besoin que les autres se soumettent à mon opinion, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de gagnant, qu'il y ait un dialogue plutôt que d'avoir une polémique. Et où ça a été un truc qui est vraiment chouette. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un des objectifs de la posture éthique. C'est d'une complexité au vu de dans quoi est-ce qu'on s'inscrit là en ce moment, de essayer d'avoir un militantisme libertaire, et où du coup il y a beaucoup de prescriptions, beaucoup de difficultés dues à notre inscription dans des systèmes de domination. Ce dont nous, on a pu en parler là, de nos situations respectives, la manière dont on s'inscrit, les éducations qu'on a pu recevoir, les influences qu'on a pu avoir par la société dans laquelle on évolue et qui font qu'on est porteur, on est acteur, bien involontairement, de systèmes de domination. Et c'est une raison pour laquelle on essaye de se situer un peu dans la conversation. On va peut-être essayer à un moment de le faire de manière un peu plus rigoureuse pour bien que vous ayez en tête, même si c'est potentiellement un exercice qu'on peut imaginer ardu, vous ayez en tête de qui on est, à partir de quel endroit on se place et puis de où est-ce qu'on peut en être dans les processus justement de compréhension de qui on est, comment est-ce qu'on peut agir.
Par ailleurs, on est très conscient qu'on est une majorité d'hommes blancs, non racisés, cisgenres, qui sommes autour de la table. On a posé la question, est-ce que ça nous permettait de faire le podcast? On s'est dit que oui, et on en parlera dans tous les cas.
Et c'est, enfin, d'autant plus que c'est ultra important vis-à-vis des questions de posture, parce que la situation de laquelle on parle influence. Ouais, c'est ça, c'est pas neutre. Quand Romane, elle parlait des questions de posture qu'elle avait vis-à-vis des enfants de Montreuil, en fait, c'est moi, j'ai travaillé aussi avec ce public-là, et en fait, c'était d'autres questions que je me posais, où moi, j'essayais de me dire plutôt, mais comment ne pas les écraser, parce que je suis plus grand, je suis blanc. Du coup, en fait, c'est d'où on parle, ça nous met pas face aux mêmes questionnements et face aux mêmes difficultés et vis-à-vis de la posture qui nous paraît juste. En fait, c'est pas les mêmes questions qui arrivent, quoi.
Et j'avais une autre précision aussi que j'avais envie de faire par rapport à ce que tu disais, Gaston, juste avant, qui était le rapport qu'on peut avoir aux autres, etc. Je crois qu'on questionne beaucoup la question de l'apprentissage, en fait. Dans le plaisir, tu parlais de confronter ses idées. Mais en fait, on revoit, on parle de posture éducative par ailleurs, on perçoit le mot éduquer, enfin, on a envie en tout cas de le définir comme ça. Enfin, d'autres personnes l'ont fait avant nous, il y a des choses disponibles sur le site de Second Souffle à ce propos-là. Mais on voit le rapport éducatif comme quelque chose qui doit être lié à l'apprentissage. Et l'apprentissage dans le sens où apprendre, c'est pas apprendre en ayant quelque chose qui doit être appris, mais plutôt un rapport qui se co-construit tout le temps et qui évolue, qui est dynamique. Et du coup, quand on parlait de plaisir, en fait, dans une posture éthique, c'est comment est-ce que j'interagis avec l'autre ? Eh bien, en fait, si moi, je confronte mes idées, ça me semble souhaitable qu'on veuille les confronter pour bousculer l'autre si jamais on a l'impression que ses croyances peuvent être fausses. J'y mets beaucoup de nuances, mais je crois qu'il faut être précautionneux sur le sujet-là. Avec leur consentement, quoi. C'est une grosse question, on en parlera peut-être plus tard, la question du consentement. Par contre, si on est prêt à bousculer l'autre, ça me semble souhaitable aussi qu'on puisse être prêt à être bousculé soi-même. Et à ce moment-là, le rapport à l'apprendre peut devenir extrêmement positif, parce que si on se dit, OK, là, à ce moment-là, je suis sachant de quelque chose, j'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, et qu'en même temps, je me rends compte de la propre limite de ma croyance quand je le fais, parce que l'autre est capable de me pointer ce qui est limitant dans ce que je crois, là, ça, le rapport à l'apprendre est extrêmement agréable, en fait, et joyeux. Et c'est central dans la question qu'on va poser à travers la posture, quoi. C'est quelle posture de pédagogue on peut avoir, quelle posture d'apprenant, de sachant, etc. Et c'est là où on y voit quelque chose de très dynamique, mais qu'on va essayer de réfléchir pour que ce soit joyeux et jamais triste, le moins possible en tout cas.
Merci pour le concept spinozien. Donc, joyeux au sens où toujours avoir une attention envers soi, envers les autres, de manière à ce qu'on ne se fasse pas du mal en apprenant. Et qu'on puisse justement prendre soin de soi, avoir de la tendresse envers soi. On vient d'avoir une conversation sur la question de la posture. On a abordé différentes dimensions de celle-ci, que ce soit dans des cadres qui soient formels ou informels, des questions du coup de la posture qui passeraient par l'apparence, l'intention qu'on porte dans le rapport, dans la relation avec les autres, les questions de statut, de fonction, de domination, de système de domination, de la situation depuis laquelle les personnes parlent, et les questions du contexte dans lequel le rapport, l'interaction peut avoir lieu. J'insiste sur le mot rapport, parce que du coup, ça va être le sujet de notre deuxième épisode, où on va s'intéresser aux liens, aux interactions entre nous, à la qualité de celles-ci, les dimensions émotionnelles, les dimensions de comportement, toute la manière dont ces questions de posture vont pouvoir rentrer en application dans l'interaction entre nous, et de la manière dont on rentre en lien, dont on rentre en rapport. On profitera de ce deuxième épisode du coup pour nous-mêmes nous situer un peu plus, savoir d'où est-ce qu'on rentre dans la conversation et comment est-ce que ça influence la qualité de nos rapports et l'importance que ça va pouvoir avoir pour le podcast. Merci à tous et toutes, à la semaine prochaine. C'était C'est quoi le rapport ? Un podcast de Second Souffle.
Second Souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Apprendre, c'est organiser la rencontre.
Second Souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.